Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Avant-dernière fin de semaine complète du mois d'août 2026, ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de chez 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. En cette veille du déclenchement des élections, que mine de rien, on s'en va vers ça. Normalement, même la semaine prochaine, le tout devrait être lancé. À partir de mercredi prochain, sauf erreur. Et c'est déjà... Ben, c'est tout comme. C'est tout comme parce que on a dévoilé des slogans politiques qui ne seront pas une grosse cuvée cette année, j'ai envie de dire. Ils sont tous un petit peu ordinaire, mais bon, ça fait partie de... la job d'essayer de se démarquer. CAQ se laisse désirer d'une certaine manière, ou en tout cas se laisse se laisse attendre, mais ça viendra. Le choix de la confiance. Pour le Parti québécois, Québec solidaire, c'est possible. Qui a été dévoilé jeudi. Oser pour vrai. Une lettre d'être d'autre chose pour les conservateurs. Rassembler, réparer, bâtir pour le Parti libéral. Et Christine Fréchette qui devrait dévoiler le sien lors du lancement de la campagne électorale. À suivre. Et qui formera le prochain gouvernement? Ça, c'est toujours dans le doute. On apprenait ce matin que finalement, Simon Jolin Barrette sera candidat pour Christine Fréchette après la démission semi-surprenante de Benoît Charrette. l'accessoirement ministre de l'Environnement de François Legault. C'est trouvé, finalement, des raisons familiales pour ne plus se lancer dans la campagne électorale. Probablement que ses pancartes et ses photos étaient faites, lui, avec. Et là, ben, Simon Jolin était dans la mire des journalistes parce qu'il était discret dans les derniers temps. Entre autres parce qu'il avait appuyé Bernard Drinville à la course à la chefferie. Christine Fréchette, lui, avait enlevé des responsabilités pour les redonner à François Bonnardel, qui, lui aussi, a fait faux bond à Christine Fréchette et a décidé de lancer la serviette. En même temps, comme plusieurs l'ont dit, de passer du pouvoir aux banquettes arrière, à ne plus rien faire et à être dans l'ombre pendant 4 ans, ça ne réjouit pas certains anciens, dorénavant, anciens ministres caquistes. Donc, plutôt que de devoir attendre 4 ans pour espérer que le blason soit redoré de l'équipe Christine Fréchette, ben, il décide juste de quitter le navire et de s'en aller parce que, ben, c'est ça, il allait probablement de toute façon se faire défaire à la prochaine campagne. Et puis, ben, pour éviter l'humiliation d'être défait, ils vont quitter d'eux-mêmes et blâmer la famille là-dessus. Ou en tout cas, pour se sortir eux-mêmes de la course et de manière plus discrète. Je sais pas, c'est tout le temps lousse, les raisons familiales. Tu sais, c'est blessure au haut, au bas du corps, au hockey, ben c'est ça. Raison familiale, raison personnelle, raison X. Plutôt que, ben, je veux pas perdre. Mais bon, ça fait partie de la game, c'est devenu une expression consacrée. Donc, les raisons familiales l'emportent sur ce qui en est. Simon Jolin sera bel et bien candidat pour Christine Fréchette. Plusieurs rumeurs ont circulé ces derniers jours à mon égard. Faire le choix de se lancer en politique et dans mon cas, pour la 4e fois, c'est un choix qui doit être mûrement réfléchi. Je suis heureux de vous annoncer ce matin que je serai candidat à la prochaine élection aux côtés de l'équipe Christine Fréchette pour la Coalition Avenir Québec, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Vendredi matin, fait que pour ça, c'est réglé. Ceux qui avaient peur que Simon ne soit pas là, il sera là. Ça, c'est fait. Un autre qui s'est servi de Facebook et de Twitter pour annoncer quelque chose qui, semble-t-il, était déjà su, mais que, ben c'est ça, personne n'a lu le livre bleu de 500 pages. Donc, ça a été la surprise un petit peu quand même pour quelques-uns en début de semaine, puisque Paul Saint-Pierre Plamondon a décidé de retarder le référendum sur la souveraineté du Québec à la condition de voir Donald Trump quitter, ou à tout le moins qu'il ne soit plus président des États-Unis. Dans le livre bleu, ce qu'on pouvait lire pour les 12 personnes que ça a intéressé, il y avait mention qu'il fallait mettre en place une commission, puis il fallait mettre en place telle affaire, puis telle autre affaire, puis il fallait mettre tel comité sur place, puis le comité décisionnel, puis de qu'est-ce qu'on fait quand on va se séparer, puis etc. Ce qui prenait de toute façon 2 à 3 ans, donc qu'une soumission de questions référendaires arriverait seulement à l'encâtre d'un gouvernement majoritaire de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce qui nous amène à l'encâtre en 2020. 29-30. Donc, normalement, Donald Trump devrait ne plus être là, à moins qu'il décide de faire fi de la Constitution américaine comme il veut le faire à la blague, mais pas vraiment en disant qu'il va se représenter pour un 3e mandat ou que ses disciples soient là sur la ligne de départ malgré tout, genre Marco Rubio ou à la limite J.D. Vance, même si aucun d'entre eux n'ont vraiment l'étoffe de réussir à survivre à Donald Trump. Surtout pas J.D. Vance, mais ça, c'est un autre débat. Donc, a remis publiquement cette annonce-là en disant « J'ai une annonce très importante à vous faire. Regardez mon Twitter à 7h30 demain matin. » il y aura un communiqué écrit. Et essentiellement, ben c'est ça. On espère, on a l'attrait du pouvoir du côté du Parti québécois. Les sondages, là, au printemps dernier, où on disait en joke de quoi ça aurait l'air si le Parti québécois ne jurait pas faire un référendum dans le premier mandat et obtenait 5, 6, voire 7 points supplémentaires comparativement en ce moment où il flirte sur la ligne à être majoritaire ou minoritaire. En ce moment, les sondages qui sont sortis la semaine dernière, mettent le PQ à 64, qui est la nouvelle majorité nécessaire. Donc, sur la très fine ligne de « on perd une course un peu serrée, on est minoritaire, on en gagne une un peu plus serrée, et on tombe en zone majoritaire ». Donc, pourquoi l'élection n'est pas encore jouée finalement? C'est parce que, justement, l'anticipation du référendum n'est pas vendeuse pour le Parti québécois, mais n'est pas nécessairement non plus si vendeur que ça pour les oppositions. Parce que et Christine Fréchette et le Parti libéral sont en recul tous les deux. C'est pas nécessairement au profit de Paul Saint-Pierre Plamondon, puisqu'il reste sur cette ligne-là à être ou majoritaire ou minoritaire. Un petit peu va s'en aller chez Éric Duhaime, un petit peu va être récupéré à Québec solidaire, même si ce ne sera pas suffisant pour sauver les meubles tant que ça. Et la cause ne sait pas, n'est pas sûre, n'a pas de décision fixe, reste encore très bonne. Au sens où on regarde les options, on est un petit peu désappointé, on est un petit peu triste de voir ce qui s'offre à nous et on n'est pas certain de notre choix final. Ce qui fait en sorte qu'on utilise une nouvelle tactique. Autant le dévoilement du livre bleu a été coupé drastiquement qu'on faisait chapitre par chapitre par chapitre au tout début. Mais comme justement l'appétit n'est pas là et qu'on ne veut pas que les méchants autres partis disent que l'on vit dans la peur et nanana, d'essayer de défaire les rhétoriques du Parti libéral, ben on a décidé de juste garrocher le livre bleu et en plus, on va ressortir la ligne dans le chapitre bleu, dans le chapitre sur le déroulement des événements qui disait que de toute façon, ça prendrait du temps avant qu'on déclare le référendum, qu'on n'allait pas être élu à la mi-octobre et qu'il allait avoir un référendum en novembre. C'était pas les plans de toute façon du Parti québécois, puis de toute façon, ça n'aurait pas été réalisable dans la vraie vie, là, cette hypothèse-là. Mais ça reste quand même que de tasser le référendum parce que Donald Trump est problématique, ce qui était dit à Paul Saint-Pierre Plamondon depuis 2 ans, depuis qu'il martèle qu'il faut absolument faire le référendum parce que le Québec se meurt et disparaîtra à cause du méchant fédéral, à cause des États-Unis, à cause de tout ça, puis qu'il faut se sortir le plus rapidement possible. Bien là, ce plus rapidement possible-là peut attendre au moins 2 ans et demi, le temps que Donald Trump se tasse. Ou en tout cas, que le plus possible se tasse. Et la question s'est posée aussi. Est-ce que ça veut dire que si c'est encore les Républicains, si c'est encore les MAGA qui sont à la tête des États-Unis, on va-tu attendre encore un autre 4 ans jusqu'à temps que les démocrates soient là? Et pourquoi il faut attendre l'approbation de Donald Trump avant de déclencher un référendum au Québec? Cette question-là aussi s'est posée, mais ça reste la tactique qui est mise en ce moment de l'avant par le Parti québécois pour essayer de récupérer quelques votes de personnes qui ont peur que le référendum arrive trop rapidement et qu'on ne soit pas dans les bonnes grâces des États-Unis ou peu importe, et qui, de toute façon, est à 30 % d'approbation. Même des gens qui votent pour le Parti québécois en ce moment voteraient non à un référendum si la question était posée rapidement ou trop rapidement dans certains cas. Donc, voilà pourquoi on essaie. On va tenter de rediriger le débat sur d'autres choses, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, parce que de parler que de référendum pendant 1 mois et demi de temps, ça aurait été pénible. Donc, le Parti québécois prend, en ce moment, l'hypothèse que de mettre le référendum au second plan de ses propres annonces va peut-être faire en sorte que, justement, l'attrait du pouvoir, la volonté de faire le gouvernement majoritaire va être réussi parce qu'on met au second plan le référendum, alors que depuis 2 ans, c'était tout ce que Paul Saint-Pierre Plamondon disait. C'était que c'était la fin du Québec, qu'on n'allait plus jamais parler français au Québec, que ça allait être la fin des temps, mais que là, parce que Donald Trump est encore là, là, il faut faire attention. Qui est le parti le plus fier pour répondre à vos priorités? Voilà qui devrait être plutôt... Voilà qui devrait plutôt guider le choix des Québécois, pense-t-il, mais en reportant le calendrier référendaire déjà dévoilé dans son livre bleu sur l'avenir du Québec, il s'expose lui-même à des interrogations sur sa fiabilité à mener le projet souverainiste jusqu'au bout, écrivait entre autres Véronique Prince d'ici Radio-Canada. Fait que... Et c'est ça qui va arriver, parce que là, maintenant, le nouveau discours que va adopter Charles Milliard s'il décide de sortir de chez eux et que Christine Fréchette va utiliser, bien sûr, c'est « Regardez, il y a un problème qui se présente et le Parti québécois rétropédale fait en sorte que nanana, nanana. » Fait que ça va déjà être commencé, là-bas, c'est déjà commencé les attaques de « Bon, voyez, il chicken out lui aussi. » Fait que c'est ça. Ça sera pas... J'ai pas l'impression que ça va être une belle campagne électorale. J'ai l'impression que les couteaux vont voler bas de tout bord, tout côté. Tout le monde veut tirer, évidemment, la couverte de son bord. Là-dessus, Éric Duhaime a été capable cette semaine en dévoilant tout ce qu'il avait à dévoiler le plus rapidement possible. Son slogan, sa base électorale, sa plateforme électorale, j'aurais plutôt dire, ses candidats problématiques, etc. Fait qu'il a déjà tout mis sur la table avant même que la campagne soit commencée. Donc, on a pu parler de lui abondamment jusqu'à temps que la campagne commence et qu'il retombe dans l'oubli. Ou en tout cas, qu'on va essayer de le remettre dans l'oubli, mais que ça ne sera pas tout à fait ça. Faut pas l'oublier, Éric Duhaime a dit qu'il se concentrait à peu près uniquement sur la région de la Capitale-Nationale, sur la Rive-Sud, sur la Beauce, donc Chaudière-Appalaches. Se fout à peu près de toutes les autres régions parce que ses seules chances de gagner un siège au minimum se trouvent dans les deux Beauces, dans les banlieues nord de Québec, peut-être la Rive-Sud avec Saint-Nicolas puis son animateur de Radio X. Quoique, Parti québécois va donner aussi dans les animateurs de Radio X parce que pour l'instant, dans Charlevoix, ils ont décidé de mettre Monsieur Radio X qui avait été baptisé par François Legault pendant la pandémie parce qu'il n'aimait pas trop les questions de Monsieur Radio X. Et accessoirement aussi, il posait des questions connes à François, à Bruno Marchand. Les extraits sont ressortis cette semaine de Frédéric Garriépy. Mais c'est ça. Ben, là, pour l'instant, sa photo était, semble-t-il, pas encore mise sur le site Internet. Ça grognait un petit peu qu'on ait accepté ce monsieur-là dans l'équipe du Parti québécois. Et même à Radio X eux-mêmes, ils ont été un peu scandalisés d'avoir une taupe péquiste à l'intérieur des murs et qui maintenant se retrouve avec l'ennemi de la radio à Québec. Donc, à voir s'il réussit tout de même à rester candidat désigné pour Charlevoix. Mais c'est ça, entrée difficile pour lui. Dans le cas de... Il y a beaucoup d'extraits qui circulent sur Garriépy et sur Doom Dumas sur la Rive-Sud pour Éric Duhaime dans ce cas-ci. Mais c'est ça, reste à voir s'il réussira à défaire Martine Biron ou si Serge Bonin, anciennement de la ville de Lévis, maintenant candidat pour le PQ, réussira à se faufiler au travers de tout ça et à l'emporter parce que Chute de la Chaudière a déjà été péquiste et ça s'était joué à pas grand-chose. Ben, Martine Biron l'avait emporté quand même facilement, mais l'élection d'avant, ça va être un petit peu plus serré entre le PQ et la Coalition Avenir Québec. Donc, à voir, ce sera la même chose cette fois-ci. Mais voilà, la campagne est lancée pour vrai la semaine prochaine, mais on a déjà des annonces qui sont débutées, notamment, entre autres, Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut démolir Santé Québec au jour 1 et Éric Duhaime qui veut saccager les services publics tout en gardant les services publics, en leur enlevant leur financement, mais en les mettant dehors. Qui réussira le tout? Ce sera à voir. Courte pause au retour, la suite de cette veille d'élection provinciale sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ.
Out of luck, ma vie. Pendant l'espace avec la NASA, pendant quelque part sur la même planète, y'a des bombes qui tombent sur gazole. Je pense que j'ai compris le message. Y'a pas de morale, y'a pas de justice. Si les chiens ont l'avantage, maman roulée dans la police.
Out of stock, Simon Kearney, comme on entendra en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Donc, ben, je n'ai parlé un petit peu avant d'aller à la pause musicale. Le PQ veut démolir Santé Québec. Évidemment, Geneviève Biron a peur pour sa nouvelle job, donc elle offre de rencontrer Paul Saint-Pierre. La présidente et chef de direction de Santé Québec souhaite convaincre le chef de ne pas démanteler la toute nouvelle société d'État mise en place par la CAQ. Biron a transmis jeudi à Paul Saint-Pierre une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie pour l'inviter à une rencontre en vue de la campagne qui sera déclenchée la semaine prochaine. Elle y rappelle que Santé Québec a été créée il y a moins de 2 ans et que sa fondation répondait à un constat historiquement reconnu par les acteurs du milieu, soit l'importance de distinguer les responsabilités liées au service public de celles liées à la gestion et à la prestation des soins de service. Ce que Éric Duhaime appelle affectueusement rajouter des fonctionnaires pour rajouter des fonctionnaires. Une rencontre permettrait au chef du PQ de disposer, comme tous les autres partis politiques, de l'information la plus récente, la plus objective concernant l'évolution du réseau, les progrès réalisés, les défis qui demeurent, ainsi que les priorités optionnelles des prochains mois. Paul Saint-Pierre doit tenir plus tard un point de presse aujourd'hui vendredi sur mon après-midi au sujet de l'abolition de Santé Québec, un geste qui permettrait, selon lui, de réinvestir l'argent dans les soins directement à la population plutôt que de mettre un nouvel intermédiaire qui est le bureau de Santé Québec qui tente de justifier son existence depuis 2 ans parce qu'on voulait que le ministre de la Santé, qui était à ce moment-là, Christian Dubé, ait moins de jobs sur son bureau. Ou en tout cas, tentative de sauver sa job, bien sûr. Dans le cas d'Éric Duhaime, ben lui, c'est sûr qu'il ferait fermer ça parce que lui, ben, il promet de mettre à pied la moitié des fonctionnaires de la Ville de Québec tout en leur demandant de voter pour lui et en même temps qu'il allait redonner de l'argent des impôts à tout le monde, mais que les services n'allaient pas être affectés s'amputant de 47 milliards de dollars, rien de moins. Selon n'importe quel économiste, ça n'a aucun bon sens et ces chiffres n'ont aucun sens. Mais de toute façon, la confiance d'Éric Duhaime qu'il a en son porte-parole en économie, Adrien Pouliot, c'est pas grand-chose parce qu'il l'a mis dans un comté à Montréal où les conservateurs sont sûrs de faire aucun gain. Donc, Adrien Pouliot ne sera pas élu de toute façon à la prochaine campagne. Mais ça, ben, ça c'est un hasard. Ou en tout cas, c'est lui qui a demandé d'être à Montréal parce qu'il ne voulait pas vraiment tant que ça être au Parlement. Sait-on jamais. Donc, à une semaine du déclenchement de la campagne, le Parti conservateur, lui, a présenté mercredi une plateforme électorale qui se veut nationaliste, régionaliste et nataliste parce que Éric Duhaime promet de l'argent aux familles à la naissance de leur enfant. Les mesures n'est pas explicites dans la plateforme, mais celle-ci promet de donner aux jeunes qui désirent devenir parents les moyens financiers nécessaires à la naissance d'un enfant en proposant de baisser les impôts pour les familles moyennes et, si nécessaire, d'autres mesures plus ciblées. Donc, en plus d'être flou, essentiellement, ça dit « faites plus d'enfants », parce que c'est ça qui manque, j'imagine. Mais on va couper dans les services à l'éducation, services à la santé, parce qu'évidemment, on va faire rentrer le privé comme si de rien n'était, parce que, bien sûr, le porte-parole en santé d'Éric Duhaime, qui provient de Montréal, qu'on garoche dans Chauveau, l'ancienne circonscription dans laquelle Éric Duhaime n'avait pas été élu, est un médecin qui vient du privé et qui est contre les avortements. Donc, c'est ça qui arrive. Interrogé sur le sujet en point de presse, Duhaime a confirmé que des mesures spécifiques pour avantager le portefeuille des familles qui donnent naissance à un enfant seront annoncées au cours de la campagne, parce qu'il se laisse quand même des petites cartes ici et là. Mais, malheureusement pour lui, sa représentante des familles, ou en tout cas qui était supposée être sa conseillère en familiarité ou en en choses familiales, Marie-Josée Élie, ça, cette fois-ci, elle se présentait dans Montmorency. Elle a présenté cette semaine une belle vidéo de lancement de campagne où elle ne portait pas de casque, elle et son enfant, sur une trottinette électrique, ce qui est deux trucs problématiques parce que le casque est obligatoire et on n'a pas le droit d'être deux sur une trottinette électrique au Québec, qui plus est sur la route comme elle le faisait dans sa petite vidéo. Et ça, c'est pour rajouter au fait que dans son CV, il y avait des jobs qui n'existait pas, qu'elle avait été embauchée en tant qu'experte en environnement d'une compagnie gérée par son ex, que des fois, elle a 4 enfants, des fois, elle en a 7. Ça dépend des bouts qu'elle choisit. Là, dans sa vidéo de campagne, elle en avait juste 4. Et que le Parti conservateur du Canada avait refusé sa candidature parce que son CV est bourré d'inexactitudes et que c'est pas rassurant d'avoir une candidate avec un CV qui se peut pas. Et Éric Duhaime, en entrevue à TVA, disait « Oh non, ça me dérange pas ». Donc, voilà pour les gens de Montmorency. Et c'est ça. Fait que la natalité a atteint un creux historique par famille, même si les sondages nous disent que les jeunes en veulent plus que 2. On a une moyenne à 1,35 enfants. L'aide financière promise par le Parti conservateur aux jeunes familles s'ajouterait, comme les baisses d'impôts historiques promises grâce à une réduction des dépenses de l'État de 47 milliards de dollars sur 5 ans, 5 % du budget du gouvernement amputé d'une shot, et que, évidemment, tous les services vont être maintenus, même si on enlève de l'argent partout. Ça, c'est la pensée magique. Et finalement, il y avait des regroupements de camionneurs qui sortaient cette semaine pour dire que le troisième lien par l'île d'Orléans que voudrait faire Éric Duhaime, ça n'a pas de maudit bon sens, parce que c'est ça. Ça fait que le trajet est de plus en plus long. Et les bénéfices d'une voie dynamique sur le pont seraient extrêmement limités si, en ce moment, le troisième lien qui traverse bord en bord la Haute-Ville pour aboutir dans Saint-Sauveur, ça sauvait 2 minutes et demie à peu près pour 11 milliards de dollars, comme le voulait la CAQ jusqu'à tout récemment. En ce moment, dans le cas du troisième lien par l'île d'Orléans, c'est pas non plus des conditions gagnantes pour améliorer tant que ça le trafic. Le nouveau pont de l'île d'Orléans a été conçu avec une voie de circulation par direction, des accotements conformes aux normes actuelles et des aménagements dédiés à du transport actif. Ajouter une voie pourrait donc avoir des impacts sur la largeur des accotements utilisés pour la sécurité et la gestion des incidents. Parce que ce qu'Éric Duhaime veut faire, c'est passer à travers un champ du côté de Lévis, déboucher sur l'île d'Orléans, passer sur le chemin qui est à l'entrée de l'île d'Orléans, mais que sur le nouveau pont, il n'est pas fait pour accueillir des camions, surtout dans la pente, pour descendre jusqu'à aller prendre le pont à l'île d'Orléans. Déjà là, en partant, ça non plus, ça ne se peut pas. Donc, meilleure chance la prochaine fois avec la petite maquette d'Éric Duhaime, mais ce n'est pas ce qui va empêcher de faire la promotion de ce troisième-là qui ne se peut pas, parce que de toute façon, Éric Duhaime ne devrait pas prendre le pouvoir non plus, mais ça va le conforter d'être capable de parler encore du troisième lien et de parler contre le tramway, parce qu'il se présente au provincial, mais il essaye de régler des détails municipaux en compétition avec Bruno Marchand. C'est la magie pour essayer de se faire élire à Québec à tout le moins. Courte pause au retour. Petite critique de film avec La sortie d'Obu d'Oak Street avec, entre autres, Erwan McGregor et Anna Tawai, qu'on retrouve à nouveau au cinéma, sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz.
Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. Simon Jolin Barrette confirme qu'il sera candidat à la CAQ aux prochaines élections. Santé Québec acquiert les trois terrains nécessaires à l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Montréal prévoit équiper 3 500 policiers et environ 6 000 véhicules de patrouille de caméras. Des maires d'arrondissement montréalais pourraient recevoir 700 $ par rencontre à la table des maires. Et au sport au tennis, blessé, Gabriel Diallo déclare forfait pour les internationaux des États-Unis. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes.
Service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. On vient d'entendre Robert. Virginie B. avec Pourvu. Bande annonce tout de suite, si on réussit à la faire ouvrir, pour Au bout de Oak Street, film de science-fiction, un peu horreur. On mélange les genres et ça donne un mix un peu étrange, disons ça comme ça. Bande annonce.
Quelqu'un d'autre a vu la drôle de lumière cette nuit?
Quelle lumière?
Le vent soufflait dans tous les sens. Starbuck aboyait, il avait peur.
C'était peut-être un hélicoptère?
Ou un ovni. Plein d'extraterrestres.
Arrête, papa.
Y a plus d'eau.
On dirait que tout le secteur est en panne.
C'était quoi ça?
On est coincé ici.
Je crois que notre quartier, notre maison, notre rue entière se sont déplacés.
Mais comment est-ce que c'est possible?
Allez-vous-en! Sauvez-vous!
Assemblez du matériel. Prenez tout ce qui peut servir d'arme. qu'on va faire?
On va survivre. Dieu nous laissera pas mourir ici.
Greg, tu vas à l'église qu'à Noël et tu dis aux enfants que Dieu s'occupe de nous?
Et tu fais quoi des voisins qui se font dévorer?
Alors, le film prenait l'affiche la semaine dernière, au bout de Oak Street, en 1982. Un monticule de déjonction apparaît dans le jardin du voisin de la famille Platt. Une plante à fleurs de plus d'un mètre émerge au beau milieu de la pelouse d'une autre, puis une lumière vive, surgissant en pleine nuit, fait basculer la rue Oak. Raccourci cosmique a en effet provoqué la collision du quartier avec une jungle de l'ère préhistorique. Pourchassés par des créatures meurtrières, Denise, Greg et leurs adolescents se claquent mur. Très beau mot, médiafilm. Se claquent mur dans leur maison sans électricité ni eau courante jusqu'à ce que la disparition du chien n'entraîne le Benjamin à l'extérieur, sa grande sœur et leurs parents à sa suite. L'épreuve de survie ne fait que commencer. Ça prend un bon moment avant de comprendre ce qui va s'en venir, parce qu'on place le quartier, on place l'environnement, on place les années 80, un peu comme le faisait Stranger Things à une autre époque. On est dans les années 80, fait qu'on va montrer des affaires des années 80. Mais c'est ça, on place le quartier, la dynamique familiale, on place les voisins, les amis d'école, etc., etc. Puis un moment donné, survient l'événement où le quartier n'est plus aux États-Unis, mais est dans le passé préhistorique. Et là, il y a des dinosaures partout. Et on a peur des dinosaures, et les dinosaures bouffent les voisins les uns après les autres. Des fois de manière loufoque, des fois de manière très violente. Fait que ça dépend. Il y en a pour tous les goûts, on va dire. Et c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de bouts aussi qui sont très codés films d'horreur, plus que l'espèce de comédie qu'on essaye de mettre un petit peu, mais en même temps, c'est pas vraiment si drôle que ça. Fait qu'il y a comme un problème de ton en partant. On est-tu dans quelque chose qui fait peur? On est-tu dans quelque chose de un suspense? On est-tu... les genres sont un peu mélangés. Et en plus, on rajoute à ça les voyages dans le temps, ce qui est le concept des trous de verre. Donc, c'est ça, c'est que c'est un trou de verre qui les a amenés dans le passé. Le quartier au complet les a transportés dans le passé. Mais, un peu comme je l'ai dit en joke, en parlant avec du monde, c'est qu'il y a comme des trous de verre dans le scénario, parce qu'il y a bien des affaires qui se peuvent pas dans ce film-là. Et oui, c'est un film de science-fiction. Oui, on peut être élastique sur certaines règles. Mais il y a des affaires qui font aucun sens, même si c'est un film qui peut pas être réel, ou en tout cas, dans cette réalité-là, ça se peut pas tant que ça. Au sens où, par exemple, les parents roulent en char, se font évidemment ramasser à un moment donné par, je pense, c'était un T-Rex qui démolit le char, mais plutôt que d'en prendre un autre, parce que là, on est un peu sur la fin du monde, puis on commence à s'en rendre compte, tout le monde, rapidement, que c'est la fin du monde, qu'il y a beaucoup de maisons qui sont clairement laissées vacantes, ou parce que le monde sont enfermés à l'intérieur, ou parce qu'ils se sont fait bouffer dans le background, en arrière de la scène principale. Fait que, pourquoi ils font pas juste prendre un autre char? Tu sais, il y en a plein des chars qui traînent, qui serviront plus. Et on est dans les années 80. Fait que les clés sont probablement en plus dans le char. Fait que t'as même pas besoin de rentrer dans la maison. Et on s'impose de ne pas rentrer dans la maison des autres. T'sais, on arrive après même pas deux jours où on a fait l'inventaire de tout ce qu'on avait dans la maison. Mais jamais, à part une fois, on va penser aller dans la maison des autres pour récupérer du canage, récupérer des bouteilles d'eau, récupérer, tu sais. Puis juste ça, à chaque fois qu'ils restaient comme dans leur espèce de cocon, il y a quelque chose qui m'agaçait de « on est en survie, on va s'emmurer », comment il a dit ça? Qu'on va défaire le comptoir en bois, le comptoir en mélamine pour placarder les fenêtres, se claquemurer. Mais qu'on pensera jamais à aller voir les voisins. On prend jamais de nouvelles des voisins non plus. On les voit par la fenêtre, mais c'est tout. Et c'est ça qui m'a un peu... Ben en fait, qui m'a énormément intrigué, c'est quand justement on a passé au moins les 15 premières minutes à juste être dans les années 80, qui se passe des affaires d'années 80 pour les jeunes, pour les adultes. On place les amis de tout le monde, les amis des enfants, mais on n'en verra aucun autre dans tout le film. Tous les amis, les voisins, etc., on ne les reverra plus jamais. Qu'est-ce qui leur sont arrivés? Aucune idée. Fait qu'il y a comme des, petites anomalies, ben, beaucoup d'anomalies dans ce film-là que, je sais pas, ça m'a un peu débarqué du film. Puis, ben c'est ça, faut accepter les propositions un peu aléatoires. Des fois, ben c'est ça, on joue avec les règles du film, à même le film. La conclusion du film n'est pas satisfaisante pour beaucoup de monde. Les gens sont pas certains d'aimer la fin, même si c'est une possibilité, mais pourquoi dans leur cas c'est ça qui arrive et pourquoi c'est pas autre chose qui arrive normalement? Le temps vient jouer aussi à travers tout ça. Fait que combien de temps qui s'écoule réellement, ce bout-là n'est pas clair non plus. Fait que, c'est ça, on met l'emphase sur certains éléments qui serviront jamais après ça. On présente des personnages pour jamais les revoir, chose qu'on fait pas d'habitude dans un film, c'est que si on présente un élément, si on présente un personnage, quelque chose qui semble important, ben on le récupère à un moment donné dans le film. On le fait à l'occasion, mais on le fait pas tout le temps. L'affaire, par contre, que j'ai trouvé intéressante dans la proposition, ben c'est un peu le bout où Jurassic World avec Chris Pratt finissait le premier film où les dinosaures étaient un peu libérés, donc se retrouvaient en liberté dans la vraie vie. On a un peu ça aussi dans Oak Street. Qu'est-ce qu'on ferait si les dinosaures arrivaient dans la vraie vie? Mais dans ce cas-ci, c'est plus une vie moderne, ou en tout cas, pas tout à fait. Vu qu'on est dans les années 80, mais tu sais, comment on réagirait au fait d'être maintenant entouré de dinosaures tout autour de nous? Bien sûr, ça se passe pas bien. Mais pourquoi? J'ai envie de dire, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent en disant pourquoi ils font ça. Ne serait-ce que de sortir la nuit quand il y a des dinosaures tout autour, pourquoi? Fait que c'est ça, c'est beaucoup de trucs invraisemblables dans un film qui est invraisemblable, mais qu'on rajoute cette dimension-là de tout le monde va prendre des mauvaises décisions dans ce film-là. C'est vraiment tous les personnages prennent au moins une mauvaise décision à chaque fois. Ou que certains trucs sont d'office parce qu'on a vu une photo très rapidement dans la maison qui justifie pourquoi tel personnage va dire telle affaire ou faire telle affaire. Fait que tu sais, il y a énormément de flou dans un film qui n'est pas nécessairement clair, mais que, c'est ça, on pourrait... C'est ça qui est drôle, c'est que c'est un film irréaliste qui manque de vraisemblables. Et ça m'a gossé que ce qui aurait dû arriver ne se passe pas ou que ben juste ne serait-ce que on n'utilise pas toutes les ressources qu'on a comparativement à n'importe quel film de fin du monde, à n'importe quel Walking Dead, à n'importe quel film catastrophique ou dystopique où on met toutes les ressources, on se regroupe. Ne serait-ce que de se regrouper avec les voisins, ça se produit pas non plus. Ah, je sais pas, il y a quelque chose qui manque à la cohérence d'un film qui se veut pas tout à fait cohérent. En tout cas, J.J. Abrams aime beaucoup les années 80. Ça, c'est un truc qui est sûr et certain. J.J. Abrams qui était la réalisation, sauf erreur. En tout cas, qui est impliqué parce que sa compagnie Bad Robot est au générique. Mais c'est ça, il y a c'est pas mauvais, ne serait-ce aussi... Ben c'est ça, les dinosaures sont réaliste avec ce qu'on sait aujourd'hui, qu'il peut y avoir des dinosaures à plumes et des dinosaures à poils longs. D'ailleurs, la scène des dinosaures à poils longs est particulièrement étrange. D'où le bout de comédie, mais pas vraiment. Mais c'est ça. Les dinosaures à plumes sont réalistes, par exemple. Ben, ils sont réalistes, sont bien faits. Mais c'est ça. À voir de quoi ça pourra... Ben, à voir, à voir, oui, mais ce sera un bon film de dimanche soir à nouveau dans 3 ans. Quand on pose retour à la conclusion de l'émission cette semaine, sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Vanille, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Donc, rapidement, avant de conclure cette semaine, mini-précision, j'ai parlé de Karim El-Youbi. Elle est à Youbi, qui est médecin dans la région de Montréal, qu'on a garoché à Québec, dans un comté qu'on pense sûr pour être capable de l'avoir au Parlement, dans l'ancienne circonscription où Éric Duhaime avait tenté de se présenter la dernière fois. Finalement, ben, je me suis un peu mélangé dans ces spécialistes en santé. Karim El-Youbi, lui, c'est vraiment seulement d'instaurer le privé le plus possible parce qu'il est lui-même dans des cliniques privées, donc de charger le gros prix au ministère tout en redonnant le plus possible aux aux Québécois en redonnant leurs impôts, mais en ne détruisant pas le système de santé, comme ils l'ont dit. C'est plutôt son ancien candidat, Roy E. Penn, qui était un conservateur chrétien monarchiste, autoproclamé, climato-sceptique, et c'est lui qui était anti-avortement. Donc, mes excuses à El Ayoubi, j'ai mélangé son profil. Lui, c'était plutôt qu'il était en faveur de l'extrême droite, qu'il aimait des publications d'Éric Zemmour sur les réseaux sociaux et qu'il aimait beaucoup Ron DeSantis aux États-Unis, en Floride. Donc, lui, c'est l'extrême droite, tandis que leur ancien collègue, qui n'a pas l'air de se représenter cette fois-ci, Roy E. Penn, que c'est lui qui était anti-avortement plus tôt. Donc, j'ai mélangé les deux candidats. Mon erreur. Et sinon, ben c'est ça. On est toujours à essayer de savoir qui réussira. Ben, on est toujours à savoir ça. On s'entend, la campagne n'est pas encore commencée. Mais comme je le disais, c'est ça. La campagne risque d'être beaucoup plus serré qu'on aurait pu attendre au début, parce que ben, on se souviendra qu'il y a à peine un an, c'était le Parti québécois qui trônait au sommet des intentions de vote. Là, on est toujours à du 30% du côté du Parti québécois. Et c'est vraiment la deuxième place. Ben, en fait, non, la deuxième place est vraiment consacrée au libéral. 26 ou 24 dans les derniers sondages. La CAQ est à 20, donc sa petite avance qu'elle avait réussi à se forger avec l'arrivée de Christine Fréchette n'existe déjà plus. Donc, on est déjà à essayer de passer à autre chose, même si ça va s'appeler maintenant équipe Christine Fréchette, qui est un autre gros pari quand même pour Christine Fréchette, de vraiment balayer François Legault pour essayer de faire oublier l'ancien premier ministre, qui n'est pas une tâche non plus. Elle irrite et hérite littéralement du legs de François Legault. Donc, évidemment, elle ne pourra pas s'en sortir. Son seul avantage, présentement, c'est que, justement, l'équipe principale, ou en tout cas la plus grande partie de son équipe de ministre à François Legault, est en train d'abandonner ou de quitter le navire, parce que c'est ça. L'appel des banquettes arrière ne les intéresse plus, surtout pas François Bonnardel, qui a été longtemps sur les banquettes arrière en tant qu'ADQ et en tant que premier gouvernement, en tant que première représentation de la CAQ avant de finalement toucher au pouvoir. Et c'est vraiment ça, je pense. C'est l'attrait du pouvoir qui fait en sorte, ou la perte de ce même pouvoir-là, qui fait en sorte que, ben, on doit prendre la décision ou non de rester ou de se représenter si réellement la coalition, ben, l'équipe Christine Fréchette, dorénavant, avait tant de chances que ça de rester le gouvernement en place. Il n'y aurait pas autant de désistement des députés actuels de Christine Fréchette. Donc, c'est louable pour les quelques-uns qui restent de rester aux côtés de Christine Fréchette plutôt que d'abandonner le navire comme plusieurs sont en train de le faire présentement, ce qui est peut-être le plus dommageable pour elle. J'ai envie de dire, c'est elle qui se retrouve après ça à devoir justifier que ses collègues sont tous en train de quitter les uns après les autres en lui disant « ben bonne chance, tu t'arrangeras avec le trouble ». Qu'ils ont possiblement mis, c'est ça qui est drôle, parce que parmi les démissionnaires, il y en a qui ont fait des choses correctes ou pas vraiment dans les décisions avec le gouvernement de François Legault. Donc, malgré cette tentative de distanciation-là, évidemment que ce ne sera pas suffisant pour la coalition Avenir Québec, équipe Christine Fréchette. Dans le cas du Parti québécois, ben c'est ça, c'est la tentative de remettre la souveraineté au deuxième plan, mais après l'avoir mis pendant à peu près toutes les années actives de Paul Saint-Pierre Plamondon, de dire que c'était ça qu'il fallait faire. Mais ça, de le remettre au deuxième plan comme on l'avait fait avec Pauline, comme on l'avait fait auparavant aussi, ben est-ce que ça sera suffisant ou trop peu, trop tard? C'est ce qu'on verra entre la majorité et la minorité pour le Parti québécois. Mais encore une fois, l'attrait du pouvoir fait en sorte qu'on veut essayer de remettre les cartes de notre côté. Pour Charles Milliard, les carottes ne sont pas cuites, mais quasiment. Deux candidats ont abandonné la course pour le Parti libéral pour des propos sur les réseaux sociaux ou pour des raisons familiales. un troisième même candidat vedette avocat à Québec qui a juste fait comme « Oh, finalement, j'ai peut-être pas l'énergie qu'il faut pour le faire », même si le 2 mois avant, quand on annonçait sa candidature, « Ah oui, je vais être là pour rester, puis on va gagner la circonscription, etc. » Et finalement, on n'avait plus l'énergie nécessaire à 60 ans pour faire cette campagne électorale-là qui est difficile. L'étoile a déjà aussi pâli pour Charles Milliard, qui ne sera probablement pas le sauveur tant attendu pour le Parti libéral, qui continue de sous-performer dans le vote francophone. Et le dernier espoir pour Québec solidaire, c'est d'essayer de conserver ses députés les plus importants à Montréal et à Québec, parce que le reste, ça va être plus difficile. Même chose pour Éric Duhaime. Éric Duhaime, c'est sa seule tentative à lui, à tout le moins, de remporter Bellechasse, parce que s'il ne réussit pas à remporter sa propre circonscription, c'est terminé pour lui. Là, ça va être une xème défaite et ça ne passera plus. C'est impossible. Là-dessus, ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. À la semaine prochaine. Salut.